now.
Attention, vous êtes sur écoute. Attention, vous êtes sur écoute.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes le jeudi 1er janvier 2015 et c'est le début d'une nouvelle année.
Nous sommes en 2015, bonne année!
Bonne année à tous, effectivement, Cyril.
Alors, c'est la dernière spéciale de surécoute, hein, cette espèce de rétrospective qu'on a décidé de monter.
C'est la première de l'année, mais déjà la dernière.
C'est une boucle, c'est magnifique.
Oui, effectivement, on tient à préciser que c'est la dernière rétrospective 2014 qu'on vous propose, puisque pendant les vacances, on avait monté ce petit rendez-vous quotidien. On avait voulu continuer ce rendez-vous surécoute, mais en vous proposant les meilleurs sujets de l'année passée.
Et donc cette année, on va commencer avec, on va commencer cette année avec l'un des sujets des temps forts de l'année 2014 à Rennes notamment. Hein. C'était la fameuse AG qui avait bloqué l'université de Rennes le 12 novembre.
Oui, l'Assemblée Générale mystérieuse, on ne savait pas trop qui avait organisé ça, on ne savait pas trop pourquoi, du comment. En tout cas, ça avait à tel point troublé la présidence de la fac que l'université avait été fermée toute la journée.
C'est ça, et du coup vous étiez parti à deux reporters. Donc toi Nicolas, tu avais suivi du côté de la présidence pour voir ce qui se passait. Et Adrien, lui, s'était rendu du côté des manifestants. On vous laisse avec ce reportage sur Radio Campus Rennes.
Attention, vous êtes sur écoute.
Bon, on écoute tout de suite Jean-Émile Gombert dans un premier temps qui nous rappelle les faits.
La semaine dernière, dans le centre de ville de Rennes, il y a eu une distribution de tracts, et un tract anonyme, dont le thème était « Faisons mouvement contre la police », et dont le contenu était clairement, même si la mort de Rémi Fraisse était mentionnée, était clairement un appel à la lutte contre la police, faisant mouvement contre la police. Pas contre les bavures policières, mais dit le tract, mais franchement contre la police. Donc, tract anonyme, qui appelait à des manifestations en ville et à une AG à Rennes 2, une assemblée générale à Rennes 2, pour ce midi à 12h30. Aucune organisation d'étudiants ou de personnel de Rennes 2 m'a communiqué une quelconque demande ou ne s'est associé à cet appel. Cet appel a été relayé dans un tag qui a été peint sur les murs de l'université pendant le week-end, un tag également contre la police et appelant à cette AG, qui n'est pas une AG étudiante, hein, puisque ce n'est pas appelé par les étudiants, c'est une AG qui, on appelle la population de la ville, à venir tenir cette AG dans les locaux de Rennes 2.
Donc qu'est-ce qui a amené plus précisément le président Jean-Émile Gombert à fermer l'université? C'est ce qu'il nous a réexpliqué lors de cette conférence de presse.
Il y avait manifestement un risque que cet AG ait un caractère, je dirais, agressif, un caractère violent. Je suis responsable en tant que président de l'université de la sécurité des étudiants, de la sécurité des personnels et également des biens de l'université. Hein. Le patrimoine de l'université est acheté sur les deniers publics. S'il y a des dégâts, je dois réparer et donc détourner en quelque sorte de l'argent qui est destiné aux formations pour réparer ces dégâts. Dans cette situation, j'ai préféré fermer l'université aujourd'hui pour éviter toute dégradation et toute agression. Je répète très clairement que ça ne se présentait pas comme une AG étudiante, mais une AG appelée par un groupe extérieur, et que très clairement, le thème n'était pas un hommage à Rémi Fraisse, mais à un mouvement contre la police.
Donc Jean-Émile Gombert a décidé de fermer l'université aujourd'hui, par mesure de sécurité et parce que l'université ne peut cautionner un mouvement qui se dit contre la police, ou en lutte directe avec la police. Et demain, donc, il y a une AG qui est aussi prévue, qui a été reportée. Mm-hmm. C'est ce que je pense, Adrien, tu vas nous parler tout à l'heure.
Exactement, ouais.
Et donc, du coup, on avait déjà l'information et on va écouter son point de vue quant à l'Assemblée Générale de demain.
Pour demain, je ne sais pas exactement quelle sera la situation. Si j'ai une demande d'organisation et étudiante ou personnelle représentative à Rennes 2 de tenir une AG, bien entendu, j'ai aucune raison de refuser qu'une assemblée générale se tienne dans l'université si c'est à l'initiative de membres de la communauté universitaire. Auquel cas, cette AG se tiendrait. Mais là, on serait dans une configuration qui est une configuration différente. Un appel à débat de la part d'acteurs de l'université. Très, très clairement, je ne peux autoriser une AG que si elle est sous l'égide, si elle est soutenue par un certain nombre d'organisations représentatives de l'université. Bon, dans ce que j'ai lu actuellement, des communiqués, mais je pense que ça me sera confirmé tout à l'heure. Il y a au moins deux organisations qui sont représentées dans nos conseils qui appellent à cet AG.
Et enfin, l'info, la vraie info d'aujourd'hui qui va concerner, je pense, tous les étudiants, c'est est-ce que, oui ou non, la fac est fermée demain ?
La fac sera ouverte demain, bien sûr. Il n'est pas question, en quelque sorte, de bloquer de façon continue le fonctionnement de notre institution.
Vous n'êtes pas contre le fait de débattre et de rendre hommage à la mort de ce militant écologiste ?
Je le répète. Je répète que c'est un sujet qui est... L'hommage lui-même est important, mais plus que l'hommage. La réflexion sur ce qui a conduit à cette mort, je dirais là, le mot d'ordre « ne plus jamais ça », en quelque sorte, est quelque chose d'essentiel. La question de la mort du jeune militant écologiste et de l'enchaînement d'événements qui ont conduit, je pense que ça concerne beaucoup de monde. Ça concerne beaucoup de monde, notamment dans une université de sciences humaines et sociales, sur lesquelles, effectivement, ces sujets de société sont des sujets qui sont non seulement étudiés, mais sur lesquels il y a des recherches. Donc ça concerne beaucoup de monde.
Donc voilà, c'était Jean-Émile Gombert, le président de l'université Rennes 2, qui nous rappelait pourquoi il avait décidé de fermer l'université aujourd'hui, Cyrielle.
Très bien, voilà. Merci Nicolas. Et donc juste après, donc on enverra Adrien cette fois-ci du côté des manifestants qui ont tenu cet AG. Mais un peu après, parce que tout de suite, nous allons écouter Stir It Up, Bob Marley.
Little darling, stir it
C'était Bob Marley avec Stir It Up sur Radio Campus Rennes. Et Nicolas, tu reviens pour une petite touchée d'informations supplémentaires.
Oui, je voulais quand même annoncer que Mathias Reux, président de l'Élan Associatif, qui est un collectif d'associations sur Rennes 2, ce qu'on a pu m'expliquer plus précisément, avait publié un communiqué de presse où il se disait totalement... Enfin, qui trouvait la décision du président compréhensible et responsable quant à la fermeture de cet AG, puisqu'en effet, le tract qui a été distribué en centre-ville de Rennes était assez
piquant.
Piquant, voilà. Merci Léonard. C'était très piquant. Mais malgré tout, il reste assez dubitatif quant à la communication qui a été faite. Et à cet effet, l'élan associatif demande l'instauration d'une réflexion à propos de la communication de l'Université Rennes 2 envers l'ensemble de ses usagers. C'est vrai que c'était un peu la cacophonie. La cacophonie, pardon. On peut le dire, c'était le caca hier, quand jour férié, on ne savait pas ce qui se passait, est-ce qu'on devait revenir en cours ou pas.
Alors par contre Nicolas, tu nous as parlé un peu du tract, mais on a beaucoup entendu parler du tract, avant de revenir sur Adrien, est-ce que tu pourrais...
Ouais, je te parle du tract en fait.
Et voilà, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qu'il y avait dans ce fameux tract?
Eh bien le tract, il est intitulé « Rémi est mort, faisons mouvement contre la police », donc ça annonce la couleur, et j'ai retiré une petite phrase, un petit paragraphe qui était sympa, c'est écrit « Pourtant, pour qui est descendu dans la rue cette semaine, il y a déjà un peu plus que la simple expression de la colère. Il y a le début de quelque chose d'inédit, d'un, entre guillemets, mouvement contre la police. Non pas contre les bavures policières, mais contre la police elle-même. Ses brutalités, ses violences, ses meurtres, son fonctionnement normal. Donc ça, c'est le tract que nous a donné le président de l'université et sur lequel il s'est basé pour fermer l'université.
D'accord, merci beaucoup Nicolas. Et là, du coup, je me tourne vers de l'autre côté de la table et de l'autre côté de l'événement, vu que toi, Adrien, tu étais avec les manifestants donc, qui ont mené l'AG aujourd'hui.
C'est ça. Alors, ils se sont retrouvés à midi et demi, donc devant le hall du bâtiment B de Rennes 2. C'était pas du tout des casseurs ou des gens excités avec des banderoles, des lacrymos ou autres. C'était vraiment un groupe, une petite centaine, je pense, dans ces eaux-là de jeunes qui sont rassemblés. Ils sont assis en rond au milieu de la place. Puis ils ont commencé à parler. Donc la parole, elle voyageait assez démocratiquement. On levait la main et puis on pouvait s'exprimer sur la vision du mouvement, ce qu'on voulait faire, contre quoi on voulait protester, les revendications. On peut s'apercevoir que tout le monde n'est pas d'accord, mais on va y revenir. Moi, je pense qu'il est intéressant au début, c'est déjà connaître pourquoi, de savoir la raison pour laquelle ils sont rassemblés.
Moi, je suis venu aujourd'hui parce que déjà, à la base, on avait prévu une AG, en fait, par rapport au mouvement anti-violence policière. Et je suis surtout venu aujourd'hui aussi parce que l'université de Rennes 2 a interdit, pas interdit l'AG, mais a fermé administrativement la fac. Et du coup, ça m'a encore plus motivé pour venir parce que je trouve ça scandaleux. Du coup, aujourd'hui, on était là pour un peu parler de tous ces mouvements-là et de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui va se passer, etc.
D'être là par rapport aux violences policières et... Pour moi, la question de la mort de Rémi, c'est un déclencheur, mais en fait, il y a plein d'autres... il y a quelqu'un qui se fait tuer par la police tous les mois, quoi. Et pour moi, c'est la question du fait que les flics tuent dans l'impunité totale, ce qui est normal, puisqu'en fait, ils sont payés pour ça. Et le fait qu'ils mutilent, qu'ils blessent les gens pour protéger le pouvoir, quoi. Et protéger les gens qui ont des thunes, quoi. Il y a clairement un truc clair là de... ils sont là pour défendre les intérêts des riches et pour ça ils sont prêts à tuer, surtout dans les quartiers, mais là aussi des militants quand ça arrive, quoi.
C'est beaucoup d'individus qui sont là, en fait, c'est pas des organisations politiques, etc., qu'ont appelé des gens à manifester ces deux dernières semaines. Là, c'est des gens qui ont vécu aussi des violences policières et qui ont juste vu ces violences policières, qui sont là. En fait, on est là en tant que personne, on n'est pas là en tant que en tant que groupe formé, quoi, enfin distinct. Donc du coup, enfin c'est vraiment, il y a pas de revendu. Enfin moi en tout cas personnellement, je parle en tant que personne, je parle pas en tant que groupe, quoi. Mais il y a pas de, moi j'ai pas de revendication. Je veux juste dénoncer en fait les violences policières qu'on subit en manifestation, etc. quoi.
Alors c'est assez paradoxal, les manifestants étaient là pour dénoncer la violence policière, mais aussi en réponse à la décision de Rennes 2 d'annuler les cours et de fermer les administrations. Donc comme dit la dernière personne interviewée, l'appel à se rassembler n'était pas le fait d'un syndicat étudiant ou d'une organisation politique seule. On peut voir sur place que ça a des effets assez pervers en termes d'organisation, car ce mouvement rassemble des personnes aux sensibilités politiques ou syndicales parfois différentes et qui n'ont pas la même vision des choses, tout en trouvant justifiée leur présence sur le terrain. Pas facile en tout ça de trouver un syndicat étudiant qui veuille bien nous parler et faire part de leur vision des choses. Était notamment présent Paul Le Damani, président de l'UNEF.
Alors nous, tout d'abord, on a été choqués par la décision de l'université de fermer la fac aujourd'hui et l'accès aux étudiants à l'université. Et du coup, on trouve que cette mesure, d'une part, elle est complètement disproportionnée et dérisoire. Et ce qui motive cette mesure, cette décision, c'est le fait qu'il y ait eu une assemblée générale, c'est-à-dire une réunion publique dans laquelle des étudiants discutaient et allaient discuter des modalités d'action par rapport aux violences policières qu'il y a pu avoir contre les manifestants, et pour rendre hommage à Rémi Fraisse. Cette assemblée générale n'avait pas vocation à une confrontation avec les forces de l'ordre ou l'administration, et d'avoir interdit l'accès à l'université. C'est senti comme une provocation pour les participants à cette assemblée générale.
Mais du coup, vous êtes là parce que il n'y a pas le droit d'être là, enfin, il n'y a pas le droit, parce qu'ils ont voulu fermer la fac par rapport à cet AG, ou parce que vous êtes là pour Rémi Fraisse ? On s'y perd un petit peu au final.
Il y a deux choses. Nous, d'une part, on condamne la décision de l'université de fermer son campus parce que ça contrevient à la liberté d'association et de réunion. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, d'une part, on soutient la lutte contre le barrage de Sivens que menait notamment Rémi Fraisse, et on est solidaire des mobilisations d'hommage à Rémi Fraisse et contre la répression policière.
Donc comme on peut l'entendre, le spectre des débats est assez large. Soutien à la protestation du barrage de Sivens, lutte contre la violence policière et pour l'occasion, contre la décision des dirigeants de Rennes 2 de fermer la fac. En parlant avec les personnes présentes sur place, on s'aperçoit que ça va plus loin. C'est une sorte de ras-le-bol général qui s'exprime. Les revendications ne concernent pas seulement les luttes que j'ai citées plus haut, mais bien toute une réorganisation du système. Cela rappelle un article paru en février 2014 dans Le Monde, appelé « Frustré, la jeunesse française rêve d'en découdre » et qui s'appuyait sur une étude mené en 2013 par France Télévisions. Donc les sondés étaient les 18-34 ans et ils devaient répondre à un questionnaire en ligne sur eux-mêmes et leur génération. Pour ceux qui se demandent si c'est représentatif, il y a eu 21 millions de réponses, un truc du genre. Donc une question qui attire particulièrement l'attention, c'est: est-ce que tu participerais à un mouvement de révolte type mai 68 demain ou dans les prochains mois? Et là, ils sont 61% à avoir répondu oui. L'article conclut: la chance des politiques jusqu'à présent est qu'ils soient plus malaisés de se rebeller contre un ennemi lointain et abstrait, la finance, la mondialisation ou bien l'Europe, que contre la génération de ses parents, comme en 68. Donc, c'est vrai qu'on peut penser que Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivens, les bavures policières et toutes les autres mouvements, hein, en France, on en parlait récemment, ça pourrait devenir des catalyseurs ou des symboles d'une lutte qui s'affirme et qui grossit un peu plus à chaque décision des dirigeants, ou en tout cas ce qui déplaît à cette population-là. Donc pour finir, il est prévu demain un rassemblement à 12h30 devant le hall du bâtiment B de Rennes 2. Le but donc c'est de converser afin de bien savoir ce que chacun a en tête et aussi d'organiser les prochaines actions.
D'accord, merci beaucoup Adrien. De toute façon, on va rester sur l'événement. Et puis, du coup, je vous remercie Adrien, Nicolas, mais aussi Laurie qui n'est pas là ce soir, mais qui est venue avec toi.
Voilà, m'accompagner à la conférence de rédaction.
Voilà.
Mais c'est intéressant ce mouvement, parce que c'est vrai que, excusez-moi, je coupe un petit peu,
mais pour
aller plus loin, c'est là on parle d'un fait, hein, donc c'est la fermeture de la fac 2, on est pour, on est contre, mais je pense que c'est vraiment une petite partie du débat au final, parce que s'attarder dessus, c'est dommage, qu'ils aient leur avis dessus, pourquoi pas, hein, que le président ait pris une décision, il fallait qu'il en prenne une, c'est son rôle, le directeur, le président, je sais pas comment on l'appelle, mais c'est vraiment tout ce mal-être là, parce que quand on parle avec des gens de Notre-Dame-des-Landes, ceux qui soient d'accord ou ceux qui sont d'accord avec le projet, ceux qui sont contre, on s'aperçoit que c'est vraiment une vision de la société qui s'entrechoquent avec d'autres. Une vision capitaliste, et encore des fois c'est des visions capitalistes qui s'entrechoquent, c'est des visions assez comment on voit ça évoluer. Et donc il y a tout un système économique qui rentre en jeu, un système social, et on s'aperçoit que voilà, tous ces mouvements là ne font pas juste partie d'une contestation anti-institution, mais vraiment d'un mal-être de la personne. Qu'est-ce que je fous là, comment je vais pouvoir aller vers le haut, comment je vais pouvoir aller vers le bas, comment je vais pouvoir faire un boulot qui a un rapport avec mes études. Enfin voilà, c'est tout ça qui s'englobe, et c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui peut péter, on en profite un peu pour prendre la parole, qu'on se sente concerné ou pas, et c'est juste une tribune.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et comment ne pas commencer l'année sans un petit micro-trottoir de Julien ? Je vous rappelle le concept, Julien prend ses clics et ses claques, va dehors, va à votre rencontre, cher auditeur, et vous propose d'écouter une musique et de récupérer vos réactions.
C'est parti !
Attention, vous êtes sur écoute.
Je suis pas allé très très loin, j'allais plutôt du côté de Pontchaillou, et j'ai rencontré une dame qui avait de bons goûts musicaux par ailleurs, mais qui n'a pas forcément spécialement aimé ce que je lui ai mis.
Je suis à Pontchaillou, à côté de l'une des deux stations aériennes du métro rennais. Il y a une femme qui envoie un message sur son portable, je vais aller la voir. Bonjour madame, je peux vous déranger ?
Quel est votre sujet ?
En fait, je vais voir les gens, puis je leur demande s'ils veulent écouter de la musique. Vous voulez en écouter ?
Je veux bien, oui. Oui.
Vous avez le temps ?
Pas trop, non, parce que j'attends quelqu'un quand même.
4 minutes, ça vous va ?
Oui, 4 minutes.
D'accord. Vous entendez ?
J'aime assez bien. C'est un peu mou pour moi, mais bon, j'aime assez bien. Mais c'est un peu... Oh, comment expliquer ça ? Je ne trouve pas le terme exact. C'est enfantin un petit peu.
Ça s'appelle Air Walker, le marcheur de l'air. C'est un artiste qui s'appelle Jeremy Jay. C'est un Américain.
Non, je le connais pas. Bon, c'est pas le style de musique rock que j'aime.
Qu'est-ce que vous aimez ?
Je suis une fan de Bruce Springsteen, ça c'est vrai. Franz Ferdinand, je préfère le rock de Franz Ferdinand, vous voyez. Et je préfère les Clash, ce Clash, bien sûr. Et aussi, je ne retrouve pas le nom d'un groupe qui monte beaucoup là actuellement, que j'ai vu bien sûr Vieille Charrue et ailleurs. Écoutez, le nom m'échappe. Je sais plus. Non, c'est trop mou pour moi.
Pas obligé d'aimer.
Non, là, ça c'est vrai. Je suis très sincère et bon. Je suis au Festival des Vieilles Charrues, donc... J'en découvre, il y a certains que j'aime bien. Je fais des découvertes, je fais des bonnes découvertes. Mais là, c'est pas mon style. Ça manque un peu de...
Vous allez aux Vieilles Charrues régulièrement, non ?
Je suis bénévole aux Vieilles Charrues. Ouais.
Vous faites quoi exactement là-bas ?
Je suis à l'accueil des festivaliers. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire.
Vous accepteriez de me dire votre prénom ?
Monique.
Moi, c'est Julien.
D'accord. Enchanté. J'ai connu un Julien, un étudiant infirmier, qui avait fait beaucoup de choses sur Radio Campus. Julien Cholet. Un étudiant infirmier. Il y a très longtemps qui avait animé une émission avec sa collègue aussi, et ça avait été super intéressant dans le domaine de la santé publique. Voilà.
Vous disiez que vous attendiez quelqu'un ?
Non, mais j'attends quelqu'un, voilà.
Et ça reste secret ?
Oui, voilà. Je veux bien arrêter cette musique, s'il vous plaît.
Vous pouvez l'arrêter. Je pensais pas que c'était aussi horrible que ça.
Oh, c'est agréable à écouter dans un relax, j'ai envie de dire. Voilà. Dans un relax, ça va. J'écouterai ça, je dirais maximum 20-30 minutes, mais pas plus. Vous voyez ?
Bah, merci, Monique.
Au revoir.
Attention, vous êtes sur écoute.
Et pour finir cette émission du et pour finir cette première émission de l'année, je vous rappelle bonne année 2015. Profitons-en, Cyrielle.
Bonne année, Nicolas.
Merci. J'aime bien de dire bonne année, non tu.
Ah, moi, je suis pas très bonne année, je suis plus Noël, mais c'est pas grave.
D'accord, ok, c'est pas grave, très bien. Moi, en tout cas, cher auditeur, je vous souhaite une très bonne année, parce que je suis content de la commencer avec vous. Et donc, on va revenir sur ce sujet de Pauline, qui avait fait une chronique, comme à ses habitudes, tous les lundis, c'est ça ?
C'est ça, tous les lundis, en fin d'émission.
Voilà, donc là, on est jeudi, mais c'est pas grave, ça marche aussi.
Ça marche aussi.
Et donc, c'était sur les imprimantes 3D. On l'écoute.
Attention, vous êtes sur écoute.
Alors cette semaine, en errant sur les internets, j'ai appris que la Chambre du commerce et de l'industrie Bretagne organisait la 7e édition de la semaine des entreprises de services en B2B. Donc ceux pour qui ça ne parle pas, B2B ça signifie business to business. Et donc en somme, c'est des entreprises qui fonctionnent pour d'autres entreprises et non pas forcément pour des clients. Et donc ça se déroule du 17 au 21 novembre. Et par un divin hasard, cette semaine, j'en ai aussi appris davantage sur le Lab Fab de Rennes, dont je vous en parlerai avec plus de précision par la suite, dont je vous conseille d'ailleurs leur site internet qui est des plus intéressants. Donc naturellement, je me suis posé la question suivante, est-ce que l'arrivée de l'imprimante 3D de façon de plus en plus démocratique ne va-t-elle pas changer le rapport d'entreprise à entreprise et d'entreprise à particulier ? Il faut savoir que déjà dans l'imaginaire collectif, depuis 1972, cette utopie est assez ancrée, puisque dans le dessin animé, donc pour ceux qui sont un peu fans, Tintin et la Coroquin, ce cher professeur Tournesol avait inventé une photocopieuse 3D, qui a d'ailleurs très vite attisé la convoitise du maléfique Rastapopoulos, qui voyait une aubaine pour réaliser des faux en dupliquant des œuvres d'art volées. Il n'aura fallu attendre que le début des années 80 pour que les premières imprimantes 3D fassent leur apparition. Elles étaient à l'époque peu répandues car très onéreuses et leur usage se limitait dans le cadre de l'entreprise. Pour ce qui est des applications concrètes, aujourd'hui l'imprimante 3D fait bel et bien partie du paysage industriel. Elle trouve des applications tant dans la production de biens directs que dans la réalisation de prototypes, que ce soit pour l'architecture ou pour les études de design, et dans des secteurs assez vastes comme l'aéronautique, l'armée, la recherche, la médecine et aussi bien sûr pour les particuliers. Bien que d'abord industrielle, l'imprimante 3D peut aussi fonctionner en open source. C'est-à-dire qu'elle permet une liberté d'usage, d'étude, d'amélioration et de diffusion. Mais je vois à vos yeux un peu interloqués, une question existentielle naître en vous, mais comment ça fonctionne ? Donc pour la faire simple, par conception assistée par ordinateur, l'objet 3D qu'on souhaite imprimer est découpé en lamelles 2D de très fines épaisseurs qui sont ensuite déposées une à une, fixées sur les lamelles précédentes. Cette technologie s'appelle la technologie additive. Donc bien sûr, il existe d'autres procédés, mais qui sont généralement plus complexes. Et comme je prétends pas encore faire de la vulgarisation scientifique, je me lance pas dans ce débat. Donc on peut imprimer sur de nombreux matériaux, donc le plastique, la cire, le métal, le plâtre, enfin, voilà, y a plein de possibilités. Donc, bien sûr, se pose rapidement un problème de droit qui est assez fondamental dans la sphère industrielle, celui de la propriété intellectuelle. Comment prétendre produire un bien unique en sachant que notre concurrent peut simplement, en l'imprimant, produire la même chose ? Comment limiter la contrefaçon ? Donc le droit international a du pain sur la planche. À l'Assemblée nationale, certains députés ont peur que ce procédé provoque les mêmes effets sur l'industrie qu'Internet a pu avoir sur la musique ou le cinéma. Au Texas, par exemple, un jeune homme a fabriqué une arme à feu à l'aide de son imprimante 3D. Donc comment canaliser ces dérives ? Dans une logique bien plus optimiste, Chris Anderson, qui est un penseur et un fervent défenseur de l'Internet et du numérique en tant que remède aux maux de l'humanité, évoque le fait que l'imprimante 3D serait l'origine d'une troisième révolution industrielle et que son développement permettrait de relocaliser la production dans les pays développés, étant donné que la main-d'œuvre serait devenue quelque chose d'obsolète. Dans le même temps, notre ancien ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, encourageait l'ouverture de 14 Fab Labs, dont à Rennes, qui sont des laboratoires qui œuvrent pour le développement du numérique et donc des imprimantes 3D. Le concept étant né, les marges de progrès de cette machine résident dans sa précision et les matériaux qu'elle peut utiliser. En juillet dernier, nos chers compères de chez Le Monde ont testé pour nous la première imprimante 3D pour nos chères maisons, qui s'appelle la DaVinci 1.0. Pour moins de 1000 euros, elle vous permet la conception de bijoux, d'objets de décoration, de jouets, d'objets de bricolage, de sculptures. Pour imprimer un objet, il faut un plan, c'est-à-dire un fichier 3D que l'on peut télécharger sur Internet ou alors qu'on peut concevoir nous-mêmes avec des logiciels 3D qui sont, cela dit, très complexes d'utilisation et donc pas vraiment ouverts au public, ou alors on peut directement scanner un objet qu'on possède déjà, comme le prétendait notre cher professeur Tournesol, dont je vous parlais tout à l'heure.
Il avait tout compris.
Voilà, un visionnaire cet homme. L'informatique devient alors un acte militant qui permet d'éviter les intermédiaires commerciaux que sont les intermédiaires commerciaux et marketing. Puis ça ouvre aussi aux consommateurs une liberté nouvelle, transformant en consommateur. Mais dès qu'il s'agit d'objets assez complexes, avec une géométrie assez variable, les échecs se multiplient. Le choix des couleurs est encore très limité, puisqu'il faut savoir qu'on veut imprimer un objet en 3D, cette imprimante-là ne propose que du monochrome, donc c'est pas très funky. Puis ça permet seulement de produire des objets de 20 cm par 20 cm sur 20 cm, donc c'est assez petit. Et de plus, il manque encore un assistant d'impression intelligent pour rendre l'usage de cette imprimante vraiment ouvert au grand public et non pas uniquement accessible à une bande d'informaticiens chevronnés. Donc l'usage de cette imprimante 3D, il est encore limité, mais il ouvre la voie à des pratiques artistiques inédites. L'exemple le plus probant, bien sûr, c'est celui de cette japonaise Megumi Igarashi, qui s'est servie de ce nouvel outil pour modéliser son vagin et en faire une petite embarcation appelée MK-Boat.
Ah bah c'est original.
Qui s'apparente, c'est ça, qui ressemble un peu à une espèce de kayak, afin de rendre le vagin, donc je cite, afin de rendre le vagin plus normal et plus pop dans une société japonaise qui est encore pleine de tabous. Donc pour cet acte un peu militant féministe, elle risque jusqu'à 2 ans de prison et environ 18 000 euros d'amende.
Ah oui, quand même.
Ça fait beaucoup.
D'accord.
Ah oui. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs pas un hasard si le Lab Fab Rennais se situe dans l'école européenne supérieure d'art de Bretagne. Ça montre un peu voilà, le lien qu'il existe entre ce procédé-là et son avenir artistique.
Je croyais que tu allais dire dans le kayak de la...
ce serait le premier vagin flottant.
Tout à fait. Ouais. Inédit. Je ne sais pas s'il existe des homologues pour l'autre sexe, mais...
Alors, pour revenir au Lab Fab de l'ESAB à Rennes... il me semble que j'avais lu dans la presse il n'y a pas longtemps ces inventeurs rennais, parce qu'il y a notamment un artiste rennais qui s'est servi de cette imprimante pour faire une prothèse de sa main. Donc moi, la question que je me posais, c'est info ou intox, j'avais entendu parler des imprimantes organiques. Donc comme quoi, en ce moment, ils étaient en train de faire des recherches pour là avoir des imprimantes 3D bio-organiques pour pouvoir...
Effectivement, en fait, on essaye de trouver de le plus d'applications possibles à ces procédés-là, et notamment en médecine, pour remplacer des membres. Enfin, ça ouvre vraiment la voie à une production très vaste, peu importe ce qu'on souhaite faire. Et c'est vrai que du coup, ça pose pas mal de questions en termes de médecine, des possibilités que ça peut ouvrir. Donc c'est pas juste artistique, c'est pas juste pour nos petites décos d'intérieur, quoi.
Ouais, j'espère que les objets imprimés n'auront pas le même destin que dans ceux du lac aux requins, l'aventure de Tintin, parce qu'ils se mettent tous à fondre au bout d'un certain moment, parce que les inventions du professeur Tournesol sont pas tout à fait...
Heureusement que Julien est là pour nous encadrer.
Non mais c'est vrai que le problème qui est posé par justement cette imprimante là qu'on peut acheter nous-mêmes pour moins de 1 000 euros, c'est qu'en termes de qualité, c'est quand même assez merdique. Je veux dire, ça demande parfois 6 essais pour réussir à imprimer l'objet qu'on a modélisé.
Ah, quand même, oui,
et sachant que ça met en moyenne 4 à 6 heures pour imprimer un petit objet, ça faut être patient, quoi. Et puis voilà, c'est niveau esthétique, on n'a pas la même esthétique qu'un objet sorti d'usine, si je peux dire, dans le sens où on voit justement ces petites lamelles fines dont je vous parlais. Bon, il y a du chemin à faire là-dessus, quoi.
Attention, vous êtes sur écoute.
C'était Serial, un autre événement marquant de l'année 2014. Cette affaire assez triste, ce fait divers, cet événement qui avait choqué en tout cas les Français, qui avait laissé assez dubitatif les politiques, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y avait eu vraiment aucune réaction de leur part.
On parle bien sûr de l'événement qui avait coûté la vie à Rémi Fraisse, la ZAD du Testé. On avait décidé de revenir un peu sur le sujet avec Laurie et Pascal, qui avait fait une interview téléphonique d'un des manifestants qui était présent sur place et qui était toujours sur place à l'heure à laquelle nous l'interviewons. On vous laisse écouter ça dans Sur Écoute. Vous êtes bien sur Radio Campus Rennes, restez avec nous.
Attention, vous êtes sur écoute.
Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la ZAD du Testé. En effet, c'est malheureusement et seulement après la mort de Rémi Fraisse sur le site du chantier contesté du barrage de Sivens que ce projet contesté depuis plusieurs années se voit alors médiatisé à grande échelle. C'est en effet là-bas et dans la nuit du 26 octobre que ce jeune diplômé botaniste et engagé dans la protection de l'environnement de 21 ans a trouvé la mort après l'explosion dans son sac à dos d'une grenade offensive de gendarmes. Son corps a été retrouvé sur les lieux du heurte.
Le Testet est un collectif créé en 2011 et a pour but de protéger la dernière zone humide d'importance du bassin versant du Tescou, qui est situé au nord-ouest du Tarn. Ce décès soulève la polémique qu'attendaient les manifestants, notamment à propos de la légitimité du barrage et aussi à propos de la mobilisation et de l'utilisation apparemment abusive des forces de l'ordre et de leurs armes. Même si Ségolène Royal a déclaré pas plus tard qu'hier que, je cite, « Sivin est une erreur d'appréciation et est un projet qui ne serait plus possible aujourd'hui ». Encore, d'après José Bové ce matin sur France Inter, je cite, « Ce projet Sivin a été construit dans les normes, mais sa légitimité est contestable. Le barrage était à 70% destiné à l'irrigation intensive d'une vingtaine d'agriculteurs et à 30% au soutien d'étiage afin de réguler la contenance du fleuve. »
Donc nous allons chercher à savoir par le biais d'un manifestant qui a tenu à témoigner ce qu'il en est de cette fameuse ZAD, son fonctionnement, ses revendications, en d'autres termes les modalités du conflit. Alors Stéphane Trouille, est-ce que tu es avec nous ?
Je suis bien là.
Ok Stéphane, tu m'entends ?
Oui, ça
va. Ouais, salut Stéphane, ça va bien ? Dans la Drôme. Alors Stéphane, tu es dans l'art du spectacle et dans la vidéo, tu t'es mobilisé en tant que citoyen et tu as rejoint la ZAD deux fois en septembre puis en octobre au moment de la mort de Rémi Fraisse. Alors voilà. Et Stéphane, du coup, explique-nous comment vous vous organisez sur la ZAD. Est-ce que c'est le collectif pour la sauvegarde du Testet qui chapeaute la mobilisation ?
Alors il y a l'organisation, elle est multiple. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce collectif du Testé qui s'est créé en 2011, qui s'est plutôt attaqué au côté légal du projet. Et puis, depuis un peu plus d'un an, il y a un collectif, le collectif des Bouts, qui s'est monté avec des gens qui sont venus sur place et qui ont commencé à s'organiser, à construire, à mobiliser, à sensibiliser et aussi à défendre concrètement sur le terrain la forêt, en essayant que les machines ne fassent pas ce travail de mort qu'elles ont fait début septembre.
D'accord. À l'heure où la Z du Testet était jusqu'alors peu médiatisée et que tu n'habites visiblement pas dans le coin, puisque tu viens de la Drôme, qu'est-ce qui t'a motivé à te mobiliser jusqu'à Sivin ? Est-ce qu'il y a eu une campagne de sensibilisation auprès des habitants du coin dans le milieu militant ? Est-ce que tu es au courant de ça ?
Alors, moi, qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est plein de choses. C'est parce que chaque jour, j'ai du mal avec cette société, cette démocratie qui ne nous donne pas la parole. J'ai aussi envie de lutter pour préserver la nature, pour éviter qu'un département de terre agricole disparaisse tous les 7 ans sous le béton. J'avais aussi envie de voir sur le terrain ce que c'était qu'une ZAD, parce que je ne connaissais que de nom et par des articles, notamment sur la ZAD du Testet de Notre-Dame-des-Landes. Donc je voulais voir ce que c'était que cet univers de ZAD qui m'intriguait. Et je voulais agir concrètement sur le terrain.
Et comment elle fonctionne, donc, cette ZAD ? Un peu comme une zone autonome temporaire, non ? C'est organisé ?
La ZAD, oui, c'est une zone à défendre avec une organisation basée autour de l'autogestion, une organisation transversale, sans chef, sans porte-parole, où tout le monde apporte sa pierre, où tout le monde essaie de mettre son énergie, où les initiatives sont multiples et on essaie de les multiplier. C'est vraiment un fonctionnement différent de ce qu'on peut avoir dans notre quotidien, avec beaucoup d'entraide, avec beaucoup de solidarité. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est aussi pour ça que j'y suis retourné récemment là, et que je vais y retourner aussi parce que je me sens bien dans cette ZAD, je me sens utile, je me sens épaulé, j'apprends plein de choses. Avec des gens autour de moi qui sont dans la lutte, qui ont envie de changer ce monde, cette démocratie, et qui ont envie d'établir un autre moyen d'existence, quoi, et où l'être humain est au centre.
Et quand est-ce qu'ont commencé les premières expulsions et qu'est-ce que tu penses de l'intervention des forces de l'ordre ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Est-ce que tu as eu peur ? T'as senti vraiment le réel rapport de force ?
Alors, les premières expulsions, ça a commencé au mois de février-mars. Il y a une première vague où les forces de l'ordre sont intervenues, ont détruit des cabanes, ont tenté d'expulser tous ces gens qui étaient sur place. Moi, j'ai vécu aussi des expulsions au début septembre, avec effectivement cette violence que j'avais en face de moi, que ce soit par les mots. J'ai entendu des choses vraiment affligeantes de la part des gens qu'on avait en face de nous, qui étaient les forces de l'ordre, puisque les décideurs n'étaient pas là, hein, ils étaient bien au chaud dans leur bureau. Ces forces de l'ordre qui nous ont insultés, qui nous ont parfois molestés, donc une violence physique, une violence orale. Et ça, c'est vraiment, au début, c'est difficile, c'est difficile. En plus, avec cette violence des arbres qui tombaient un par un. Moi, j'en ai pleuré. Hein. Le premier matin, je suis arrivé avec mon ami, on était consternés quoi, de voir ça, comment c'était possible en France d'avoir ce type de fonctionnement et d'abattage.
Stéphane, je voudrais savoir, je te coupe un petit peu, je suis désolé. Qu'est-ce que tu penses des manifestations qui ont suivi la mort de Rémi, en fait?
Bah, ces manifestations, elles sont nécessaires, à mon avis. Elles sont nécessaires, pour rendre hommage à Rémi, pour montrer que c'est pas rien, cette mort de ce jeune homme qui était venu militer sur la ZAD. Et puis elles sont nécessaires aussi pour établir un rapport de force, pour montrer qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui ont envie d'autre chose. Elles sont nécessaires pour se rassembler, parce que dans cette société aussi, on est chacun chez soi un peu, et ces manifestations, elles sont aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de parler, de débattre, d'organiser des choses, des rassemblements, des actions. Et donc, pour moi, elles sont nécessaires, et je trouve même que... Bon, il y en a un paquet qui ont lieu un peu partout, dans toute la France, même en dehors, en Espagne, en Angleterre. Il y a vraiment des rassemblements partout, mais il faut que ça se multiplie, il faut que tous on se lève et qu'on montre notre point et notre désaccord avec ce qui se passe.
Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Vous pensez à quelque chose?
Non, mais ça rappelle un petit peu Notre-Dame-des-Landes dans l'esprit, au moins, plus que dans les faits. Enfin, le projet, je suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que la mobilisation, c'est un peu d'être contre le système, en plus d'être contre le projet en lui-même. Donc c'est ça, c'est intéressant de voir que ça se développe à plusieurs points en France dans le même temps. D'ailleurs, est-ce que ça vous a encouragé un peu l'action Notre-Dame-des-Landes au niveau de l'aéroport? Est-ce que ça a encouragé un peu la mobilisation là-bas, le fait que ça aboutit justement un peu à cette immobilité du projet à Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que vous, ça vous encourage dans votre...
Je dirais que la ZAD du TST, c'est un peu un petit de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait beaucoup de personnes début septembre qui étaient passées par Notre-Dame-des-Landes, qui étaient arrivées là et qui ont apporté un petit peu cette expérience de Notre-Dame-des-Landes, cette expérience de lutte nouvelle, un peu dans la continuité aussi de ce qui s'est passé dans le Larzac. Donc effectivement, Notre-Dame-des-Landes, c'est un exemple qui nous porte tous, qui est pas gagné encore, mais bon, quand même, je pense que le projet est encore dans les cartons, mais il va pas tarder à y être. Donc effectivement, cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes est omniprésente et aide aussi dans l'organisation sur place. Et c'est des luttes qui communiquent beaucoup, hein, c'est ce qui se passe aussi beaucoup en ce moment. Autour de toutes les ZAD qui peuvent exister, que ce soit les 1000 vaches, que ce soit la ligne LGV Lyon-Turin, enfin, il y a une communication qui se met en place, et ça c'est important aussi dans la lutte, et donc des relations qui se mettent en place, des gens qui voyagent, qui apportent leur expérience, toutes ces ZAD sont bien sûr liées et convergent vers un même but.
Oui, merci Rémi, merci Stéphane, j'étais sûre que j'allais faire l'erreur. Merci Stéphane d'avoir accepté d'intervenir dans l'émission de Radio Campus, puisque en plus, je voudrais juste réagir un dernier mot sur ce que tu as dit à la fin. Il y a quand même 50 ZAD actuelles en France sur le même thème, sur les thèmes environnementaux et tout ça. Donc on va pouvoir conclure par le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette semaine, Ségolène Royal recevra les différentes associations agricoles et de protection de l'environnement afin de, je cite, faire converger les points de vue, a-t-elle dit. À ce moment, donc, il y a lieu une réunion réunissant à la fois les acteurs de l'initiative du projet et les opposants pour essayer de trouver une solution du conflit. Et on espère qu'ils en trouveront une.
Ouais, moi, je tiens à te remercier aussi, Stéphane, de ton témoignage. Et puis, je dis aux personnes qui sont au niveau de la ZAD de continuer à la lutte.
Merci, Pascal.
Le point levé, Pascal.
Oui, vas-y.
Pour les personnes qui voudraient s'informer, n'hésitez pas à aller sur le site tant qu'il y aura des bouilles, .wordpress.com. Il y a des rassemblements un peu partout, notamment à Lorient, jeudi, vendredi. Et il y a une date vraiment importante, c'est le 22 novembre, avec une journée contre les répressions policières, avec déjà un rassemblement prévu à Nantes à 14h au parvis du palais de justice, et partout en France. Donc renseignez-vous et mobilisons-nous, levons-nous partout. C'est important qu'on le fasse là et je pense qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner, hein, parce que ça ne peut pas continuer.
Merci beaucoup Stéphane. Merci Laurie, merci Pascal. De toute façon, vous allez peut-être continuer aussi à suivre le sujet, parce que je sais que ça vous intéresse.
Carrément.
Ouais. Je pense aussi. Ouais.
Donc voilà, on reviendra certainement sur le sujet dans les semaines à venir. Mais tout de suite, on écoute Ariane Moffat. On part du côté du Québec avec Soleil Chaleur.
Le premier
C'était Ariane Moffat, Soleil Chaleur.
Attention, vous êtes sur écoute.
Voilà, alors à la fois cette première surécoute de 2015, mais à la fois la dernière de rétrospective des vacances de Noël et du Nouvel An, se termine. Donc on était ravis de passer ces 15 jours avec vous, on espère que vous aussi.
Oui Cyrielle, ça m'a fait énormément plaisir également de partager avec toi et nos auditeurs nos meilleurs sujets de 2014. C'est la fin.
I know a bloke who knows a bloke. Who knows a bloke? Now you know this bloke. This is a bloke you know.